Amen. Pendant que nous sommes debout, je voudrais vous demander de prendre vos Bibles avec moi dans le livre de Jean. Au chapitre 8, versets 31 à 36. Jean, chapitre 8. Vous y êtes? Est-ce qu'ensemble on peut faire à haute voix la lecture? On y va? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, et le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je vais lire Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Père, je veux te rendre grâce. Merci pour le privilège qui m'a donné d'apporter la parole de vérité. Je mets une demande au devant du trône de la grâce afin que le revêtement de ton onction, de la capacité d'en haut, soit encore avec moi à ce culte. Merci pour ceux qui m'écoutent ici, qui m'écoutent ailleurs, au très loin. Oh Père, je te loue de ce qu'au son de ma voix, l'onction est transportée jusque là où tout le monde m'écoute, au nom puissant de Jésus. Les chaînes sont brisées. La lumière jaillit dans l'homme intérieur. L'intelligence est renouvelée. Les démons sont chassés. La vie de Dieu s'installe par la puissance en haut, au nom de Jésus. Père, merci. Merci pour tous les signes. Merci pour tous les miracles qui accompagnent toujours ta parole quand je l'enseigne, au nom suprême de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen trois fois.
Amen, amen, amen.
S'il vous plaît, donnez-moi de très bons amens trois fois.
Amen, amen, amen.
Tu peux t'asseoir dans sa magnifique présence. Le thème de l'enseignement de ce matin, expérimenter la délivrance par la foi. Expérimenter la délivrance par la foi. Vous savez que le thème de la délivrance dans le corps de Christ est trop controversé. Nous avons plusieurs écoles de pensée. D'autres qui disent, celui qui est né de nouveau n'a pas besoin d'être délivré et ne peut plus jamais être possédé. Et ceux qui pensent que quand on est né de nouveau, on a besoin de délivrance pour pouvoir vivre la vie de Dieu. Et d'autres encore qui pensent même que les démons n'existent pas. Et que ça, c'était des choses qui se passaient avant. Mais aujourd'hui, l'église a évolué et on a découvert qu'il n'y a plus de démons. Il y a ceux qui pensent ainsi. Cependant, vous voyez, Dieu ne nous a pas appelés dans son royaume afin que nous vivions selon nos pensées, mais plutôt selon sa pensée. Donc, il est donc important pour nous de nous référer à la parole de Dieu et de connaître la pensée de Dieu au sujet de la délivrance. C'est vrai que ceux qui ont l'habitude de m'écouter, parler de la foi, parler de la justification, parler de la grâce, parler de la faveur, peuvent être très intrigués que j'aborde un thème comme celui-là. Eh bien, je crois en l'existence du royaume des ténèbres. Je crois que les démons existent. Mais je crois davantage aussi à la puissance surnaturelle de Dieu. et que Dieu a doté son église d'un pouvoir incroyable. Et qu'il est important dans cette dispensation de cesser de donner au diable la place qu'il n'a pas. Et que l'église retrouve sa position de domination. Et que chaque enfant de Dieu règne sur la terre des hommes. Lève ta main droite, dis, il s'agit de moi. Je règne sur cette terre. Alléluia. Alors Jésus s'adresse aux Juifs. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais avant cela, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et il y a une différence entre quelqu'un qui passe dans une maison et quelqu'un qui demeure dans la maison. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, de temps en temps, sont en contact avec la parole, mais ne demeurent pas dans la parole. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et il y a une différence entre le disciple et le converti. Le converti est sauvé, mais le disciple marche dans la discipline des enseignements donnés par le maître. Donc il y a un temps qui s'écoule entre le salut et celui d'être disciple. Le disciple est converti par le système de pensée de son maître. Alors que le salut, celui qui est sauvé, est simplement d'abord entré dans le royaume. Et il commence donc le processus de conversion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et vous voyez, on a donc dans le royaume beaucoup de personnes qui sont sauvées. Beaucoup qui sont sauvées dans le royaume. D'ailleurs, pour être dans le royaume, il faut être sauvé. Mais très peu qui sont des disciples. Mais Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez véritablement mes disciples. Alors, revenons à la problématique. Quand on est né de nouveau, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle naissance? 2 Corinthiens 5, verset 17. D'ailleurs, je voudrais vous dire que toute personne qui n'est pas née de nouveau est sous la captivité des démons. Donne un bon amen. Amen. Donc, il n'y a personne qui ne soit né de nouveau qui peut prétendre ne pas être sous le contrôle ou l'influence du diable. Celui qui n'est pas né de nouveau appartient systématiquement au diable et à sa merci. Le diable peut en faire le petit déjeuner du matin, le repas du soir, ou tout ce qu'il veut de lui, parce qu'il lui appartient. Mais la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, est-ce que je peux voir la main de quelqu'un qui est en Christ? La Bible dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On voit là deux choses, les choses anciennes et les choses nouvelles. Mais la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qui est véritablement passé? Puisque nous constatons, quand nous naissons de nouveau, que nous ne changeons pas de corps. Mais c'est de nouveau. Tu as le même corps. Tu as les mêmes yeux, les mêmes oreilles. D'accord? Tu as la même pièce d'identité. Tu as la même nationalité. Tu n'as pas changé la couleur de ta peau. Mais qu'est-ce qui passe, effectivement? Quand nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui passe? Et qu'est-ce qui devient nouveau? Vous devez comprendre ceci. Voici ce qui passe quand on est de nouveau. Premièrement, la mort éternelle passe. La condamnation éternelle passe. Les malédictions passent. D'accord? L'appartenance à Satan passe. La domination légitime des ténèbres sur nos vies passe. Donc ces choses anciennes passent. Nous sommes transférés des ténèbres à la lumière. D'accord? Donc nous ne sommes plus du royaume des ténèbres. Ces choses sont passées. Maintenant, il y a d'autres choses qui deviennent nouvelles. Lesquelles? Nous sommes recréés. Ton esprit devient nouveau. D'abord, il est recréé. C'est une nouvelle, c'est ton nouvel esprit que tu as. Tu as une nouvelle création dans ton homme intérieur. On y revient. Et ton identité change. Tu es appelé spirituellement fils de Dieu. Quand Dieu te regarde sur la terre, il dit voilà mon fils. Il dit voilà ma fille. Donc tu es rattaché à la paternité de Dieu. Ça, c'est très fort. D'accord? Et tu peux clamer tout ce qui est à Dieu. D'accord? Tu as accès à Dieu. Parce que tu es une nouvelle création. Tu reçois la vie de Dieu. Selon Jean 10:10. Dans ta vie, tu as le pouvoir d'en haut. Selon Jean 1:12. Dans ta vie, dans la vie et le pouvoir. Dieu te confère son autorité. Celui de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as l'immunité divine. Protégé contre tout assaut des ténèbres. D'accord? Tu deviens le fils d'Abraham. C'est donc tu as l'héritage de la terre. Voilà les choses, vous voyez, qui deviennent nouvelles. C'est pourquoi Éphésiens 1, verset 3 dira, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans les lieux. » Oh, s'il vous plaît, dans les lieux.
Céleste.
Allons-y ensemble, d'accord, dans les lieux.
Céleste.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si les bénédictions que Dieu a pour toi restent au ciel, tu peux être malheureux sur la terre. Dieu a une richesse pour toi au ciel. Dieu a une maison pour toi au ciel. Dieu a des voitures pour toi au ciel. Et tu es sur la terre, tu marches comme un esclave. Donc il faut que les choses du ciel descendent sur la terre. Parce que c'est la zone où tu dois faire ton impact. C'est pour ça que Jésus a dit lorsque vous priez, dites que ton règne. Oh, je déclare sur ta vie le règne de Dieu. Vous savez, dites-moi des amens en bonne santé. Voilà, il dit que ton règne vienne. Amen. Et que ta volonté soit faite sur. Soit faite où? Sur la
terre.
Sur la terre comme au. Ça veut dire qu'il y a une volonté arrêtée au ciel. Et qu'il est possible pour quelqu'un de vivre totalement hors de la volonté de Dieu. Ça, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant de Dieu. Vivre en dehors du chemin glorieux de l'Éternel. Que cela ne soit jamais ton partage. D'accord? Oui, donc c'est ça. Oui, donc il est important que cette vie-là vienne sur la terre. Mais maintenant, comment est-ce que nous arrivons justement à jouir de cette vie, à régner dans la vie, malgré l'opposition du clan ennemi? Nous allons comprendre comment est-ce que l'action de l'attaque, le processus de possession et la nécessité de la délivrance, vous voyez, par la foi, s'opèrent. Premièrement, je voudrais dire ceci. Toute personne née de nouveau est véritablement délivrée. Dis un bon amen.
Amen.
Dis encore amen.
Amen.
Tu appartiens totalement à Dieu. D'accord? Quand tu es né de nouveau, tu appartiens à Dieu. Sauf que le diable fera tout pour reprendre le contrôle de ton corps, reprendre le contrôle de ton être. Parce que ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que le diable te lâche. Bien au contraire, tu deviens la cible privilégiée de l'enfer. Parce que les deux royaumes sont en conflit pour reprendre, vous voyez, et le diable va tout faire pour reprendre le contrôle de ta vie. Regardons ce qui se passe à la nouvelle naissance. Nous savons tous que nous sommes un esprit. Et il y a une âme vivant dans un corps, dit «
Je suis un esprit ».
Encore « Je suis un esprit ». Encore « Je suis un esprit ». Vous savez, il faut cesser de vous voir la dimension physique. Dis encore «
Je suis un esprit ».
Amen. Vous savez, quand j'ai découvert que j'étais en esprit, j'ai décidé de plus jamais faire les choses comme les hommes. Dis,
je suis en esprit.
Dis encore, je suis en esprit. Très bien. Ayant une âme et vivant dans un corps, ça veut dire que tu acceptes que ton corps n'est que la maison qui te porte. Et que le réel toi n'est pas celui qu'on voit. Et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit à l'intérieur. À la nouvelle naissance, l'esprit qui était mort en toi est revenu à la vie. C'est même pas qu'il revient à la vie. Il a été récréé. D'accord? C'est pas qu'il était endommagé, on l'a réparé, non. C'est on l'a récréé. Donc, une nouvelle création. L'esprit est remis à l'intérieur, à sa place, mais en toute nouveauté. Venant directement du ciel. Et cet esprit a la capacité de la communion avec Dieu. Donc il parle, il écoute, il est en communion avec Dieu par le Saint-Esprit et par sa parole. Ça c'est l'Esprit. C'est pour ça qu'à ta nouvelle naissance, parlant de la régénération, quand tu es régénéré, ton esprit est régénéré, tu commences à avoir le désir de lire la Bible. C'est arrivé à quelqu'un d'entre nous ici? Le désir de prier, c'est arrivé à quelqu'un d'entre nous? Le désir de chanter des cantiques, c'est arrivé à quelqu'un d'entre nous? Le désir d'aller à l'église, c'est arrivé à quelqu'un d'entre nous? Le matin quand tu te lèves, tu as envie de courir à l'église. Il y a quelque chose, il y a comme une vie, quelque chose qui bouillonne en toi. Oui, ça c'est la nouvelle naissance. D'accord? Il y a cette envie, justement, d'aller dans les choses de Dieu. Ton esprit est régénéré. Mais, vous voyez, tout est nouveau dans l'esprit. Mais le réel problème, c'est qu'il reste l'âme et le corps. Qu'en est-il de l'âme? Eh bien, suivez-moi bien, ton âme n'a pas changé. Non. Ton âme n'a pas changé. Contrairement à certains enseignements que les gens donnent, ton âme n'a pas changé. Ton âme a besoin de transformation. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ton âme a besoin d'être transformée. Et le mot transformé vient du mot métanoïa, qui veut dire métamorphosé. En fait, le but de Dieu n'est pas de changer ton âme de telle enceinte qu'on puisse te reconnaître. Il veut, par le processus du changement de tes pensées, amener les gens à ne plus reconnaître la personne qui était dans ce corps. Qui a déjà vu une chenille? La chenille rampe, n'est-ce pas? Vous voyez la chenille en train de ramper. Mais quand il y a métamorphose, qu'est-ce que la chenille fait? Elle s'envole. Pourquoi? Parce que c'est la métamorphose. Tu es changé totalement dans une autre nature. Tu n'as plus la même nature. Tu bouffes, tu te mets dans les airs. Donc ce phénomène nous explique que quand on laisse la métamorphose prendre place dans notre âme, nous décollons dans les airs. Oh, que quelqu'un fasse comme ça. Quelqu'un fasse comme ça dans les airs. Tu planes comme un aigle. Alléluia. À cause de la métamorphose. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc c'est très important. Donc tu es transformé totalement. Au point où tu n'es plus reconnaissable par quiconque. D'accord? La transformation est radicale. On dira, mais est-ce que ce n'est pas cette fille qui jetait les mouchoirs en zone 4? Est-ce que ce n'est pas ce gars qui était palabré dans les quartiers? Est-ce que ce n'est pas cette fille, ce gars qui découchait tous les jours? Mais il y a eu métanoïa. L'âme a été bouleversée totalement et la personne a changé. Donc du démon, il est devenu un ange. Amen. Par la puissance de Dieu. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Donc voyez, je me rappelle cette phrase que Dieu m'a donnée en 1995. Il m'a dit, si tu veux changer un homme, il faut changer son système de pensée. Donc le changement radical ne se perd pas uniquement par la vie dans l'esprit, mais par le changement du système de pensée. Parce que le système de pensée peut bloquer l'effusion de la vie. L'homme n'est pas un robot. C'est pas parce que tu as reçu la vie de Dieu que tu vas automatiquement vivre comme un Dieu sur la terre. Tu peux choisir de rester un homme. Tu peux choisir de continuer de vivre comme tu étais. C'est un choix. D'accord? Vous voyez, c'est pour ça que dans beaucoup d'assemblées où la parole n'est pas enseignée, où on met l'accent uniquement, ce n'est pas mauvais d'avoir la puissance, j'y crois, j'ai commencé mon ministère dedans, j'y crois, à tout message, je prie pour la puissance, les guérisons, les témoignages extraordinaires, j'aime. Mais la vraie puissance est le changement radical de la pensée. Quand ton homme change dans sa pensée, c'est incroyable. Et le vrai impact, c'est réussir à amener quelqu'un à changer de conviction. Pas simplement adhérer au mouvement, mais à être transformé et d'y aller de cœur. C'est ça en fait, ce que Dieu veut qu'on puisse faire. Donc Dieu veut qu'au travers de cette métamorphose, la vie de Dieu soit visible au travers de notre monde, de nos corps sur la terre. D'accord? Mais parce que quand tu es né de nouveau, ton corps reste le même. D'accord? Ton corps reste le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous, il est né de nouveau et il a changé de peau? Je n'ai pas dit si c'est douce. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Tu es né de nouveau, est-ce que tu as changé de peau? Non? Si c'est le tchat que tu as fait, ce n'est pas nouvelle naissance. On est d'accord là-dessus. On est ensemble, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, tu n'as pas changé de peau, mais tu es resté la même personne. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Donc, qu'est-ce qui a changé, c'est l'intérieur. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Quand la vie descend dans l'esprit, et que la vie doit toucher le corps, il faut que l'âme qui libère l'espace du pipeline et que cette vie ruisselle par l'âme et touche le corps. C'est pour ça que 3 Jean 2 dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que vous prospérez à tous égards. Et soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans la vie du croyant dépend de ce qui se passe dans l'âme. Et le diable le sait. Et il va livrer un combat terrible pour que ton âme ne change pas. Tu vas prier, tu vas danser, tu vas jeûner, tu vas donner des offrandes, tu vas, alléluia, mais quand ton âme n'a pas changé, tu passes à côté du meilleur du ciel. Que cela ne soit pas ton partage.
Amen.
Dis encore un bon amen.
Amen.
Dis encore un bon amen.
Amen.
Donc vous voyez, quand tu as libéré la vie de l'esprit, la vie descend comme une lumière, traverse le pipeline par l'âme et ruisselle dans le corps. À partir de ce moment, s'il y a une maladie, cancer, etc. dans le corps, paf, la maladie disparaît. Et tout ce qui est rattaché à ton existence est visité par cette lumière. Et la gloire de Dieu s'installe. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc cette vie te mène à l'abondance. Mais il faut la collaboration de ton âme. Lève ta main vers le ciel, dis, je m'engage avec mon âme à collaborer pour que la vie d'en haut s'installe radicalement au travers de mes membres sur la terre des hommes. Je confesse que je livrerai ce combat sérieusement et je le remporterai, car Dieu m'en a donné la capacité. Au nom de Jésus, amen.
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 Et amen.
Amen.
Vous voyez ce que la Bible dit? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, quand on est né de nouveau, on n'est plus de ce siècle.
Amen.
Dis amen.
Amen.
Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vie qu'on avait reçue n'était pas de ce siècle. Donc nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce siècle. Mais le combat de Satan, c'est de tout faire pour qu'on ne soit pas différent des païens. Bombarder notre système de pensée, notre manière de réfléchir. Mais il dit, soyez transformés, soyez transformés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi il dit discerner la volonté? Ça veut dire que la volonté de Dieu ne nous est pas imposée, mais nous faisons un choix pour elle. Donc si j'ai discerné sa volonté, je choisis la volonté de Dieu. Vous voyez, la vie de la foi est un choix. Amen. Il y a des gens qui sont là et ils choisissent de mener une vie minable. Est-ce que vous savez que mener une vie minable dans le royaume des cieux est un péché? Si vous vivez en dehors des standards de la parole, vous êtes en train de pécher. Car Dieu veut que vous soyez établis dans les standards de sa parole. C'est-à-dire dans les hauteurs. Il n'a pas dit de vous que vous êtes une moitié lumière. Il dit vous êtes la lumière du monde. Et vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Et qui ne peut être cachée. Donc si tu caches ta lumière sous la table, tu pèches contre le ciel. Quelqu'un dise un bon amen.
Amen.
Donc vous voyez, il est important de comprendre ce principe fondamental des Écritures. D'accord? C'est très, très important. Donc, c'est à l'âme qu'incombe le contrôle de l'être entier. C'est l'âme qui jouera le rôle décisif. Donc, si vous n'investissez pas dans votre âme, vous êtes en train de corrompre votre futur. Ce qui détermine ton futur, c'est dans l'âme. Parce que tout est arrêté par Dieu. Jésus a dit, tout est accompli. C'est pourquoi le psalmiste, prophétiquement, dans Psaume 23, dira... L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est prophétique. D'accord? Et au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Lève ta main droite, dis, Seigneur, restaure mon âme. Encore, Seigneur, restaure mon âme. Vous voyez que si Dieu dit de David qu'il est un homme selon son cœur, ça veut dire que les prières de David plaisaient à Dieu. Il restaure mon âme. Il me conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. Donc à cause du nom de l'Éternel appelé sur ta vie, il veut restaurer ton âme et te conduire sur le chemin de la justice. Mais est-ce que tu vas donner à Dieu l'autorisation de restaurer ton âme. Parce que Dieu ne peut pas restaurer ton âme sans ta propre collaboration. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, le vrai problème aujourd'hui, combien de personnes dans la maison de Dieu demeurent dans les Écritures? C'est ça le problème. Les gens disent, ils courent partout. Oh, pasteur Wafo, je veux ton onction de foi. Je veux la foi que tu as. Amen. Alléluia. Je veux ta foi. Mais bien aimé, le rouleau, il faut l'avaler. Il faut dévorer la parole. Si vous aimez avoir une vie de foi, et que vous n'êtes pas prêt à passer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 7 heures dans la parole, comment voulez-vous que votre foi grandisse? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Si vous ne passez pas de temps dans la parole, comment vous voulez avoir la foi? Il dit, si vous demeurez dans ma parole. Je vois des gens qui sont même ministres de Dieu, de beaux costumes, de grandes chaussures, mais même pas de Bible d'études. La Bible est vieille. Aucun instrument de travail, aucun équipement. Et si vous les voyez, dans les cravates, dans les chaussures, dans les apparences, mais tout ce qui est l'impact de l'âme, aucun investissement. Vous devez payer en prix pour ça. Vous voyez, vous devez vous arrêter. Une semaine, même 3 heures, fermez tout, même les portables, et allez dans la parole. Dieu, je veux connaître la parole. Oh, quelqu'un dira, bon, dans tous les cas, le pasteur Wafo étudie pour moi. Non, non, c'est vrai, je vais enseigner pour toi. Mais quand tu écoutes la parole, va et révise la parole. Réécoute la parole, médite la parole, mets-toi à genoux dans ta chambre, lève les mains vers le ciel. C'est important. Laisse le soin à ton âme d'être visité par la vie d'en haut. Amen. Mais beaucoup de personnes ne le font plus. Dès qu'on sort l'église, alléluia, c'était fantastique. Amen. À mercredi soir, si j'ai le temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez, il n'y a plus cette passion des choses en haut. Et il dit, est-ce que vous demeurez dans ma parole? Alors, le problème, c'est de demeurer dans la parole. Bien-aimé, je n'ai pas envie de vous amener dans la séduction. On a beaucoup de ministères basés sur le spectaculaire, qui sont simplement là sur le don. Alléluia, reçois. On peut faire ça tous les dimanches. Et tu sortiras, alléluia, alléluia. Mais je sais qu'in fine, tu ne seras jamais dans le meilleur du ciel. D'accord? Si la parole n'a pas changé ton système de pensée. Et que tu gardes les 4 formes que tu as. Et, ok? Tu gardes la même posture de pensée. Tu n'as pas changé à l'intérieur. Ta manière de voir les choses n'a pas changé. Rien ne change. Rien ne change. Donc il est impératif que chaque cœur s'ouvre à la lumière de la parole. Ça, c'est ton investissement personnel. Comprends-moi bien. Et là, on touche quelque chose de très profond. Bien-aimés, écoutez-moi, vous pouvez être né de nouveau et votre corps soit infiltré par un démon. Je m'arrête là un moment. J'ai étudié la Bible, je ne l'ai pas lue plusieurs fois. Avant d'enseigner, je prends la peine d'étudier profondément. Aucun texte dans les Écritures ne nous démontre qu'un enfant de Dieu ne peut être possédé. Ceux qui défendent cette théorie disent, 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en dedans de nous. Et il conclut qu'il ne peut pas avoir de cohabitation. C'est une conclusion. La Bible ne l'a pas dit expressément. J'ai été de cette école avant. Mais en étudiant profondément pour avoir mon point de vue personnel des Écritures, je me suis rendu compte qu'aucun texte ne m'autorisait à avoir cette conviction. De deux, aucun autre texte ne dit qu'un enfant de Dieu peut avoir un démon. Aucun autre texte. Sauf qu'on a un texte isolé dans le cas de l'apôtre Paul qui a été de 2 Corinthiens 12, 7, 8. Il dit, et pour que je ne sois pas en fait d'orgueil à cause de l'excellence de la révélation, il m'a été mis une chair dans la chair, un agent de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur et l'éloigné de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit. Alors, je ne voudrais pas aller dans l'explication profonde de ce texte. D'autres diront, est-ce que l'apôtre Paul a péché? C'était un saint homme de Dieu. Comment est-ce qu'un démon arrive dans sa chair? Mais au moins, on a un texte là où l'apôtre Paul utilise l'expression « Un ange de Satan était dans ma chair. » Ça veut dire « sars » venant du grec qui veut dire le corps, qui n'est pas l'ancienne nature. Donc il parle d'un ange du Seigneur dans son corps. D'accord? Il ne parle pas de son ancienne nature. Non, mais il parle de son corps. Bon, on va développer comme on veut. Passons dessus. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand il y a absence de texte, on peut faire appel à l'expérience. C'est-à-dire, voyez, on n'a pas de texte qui dit soit ci, soit l'autre. Mais avec l'expérience, j'ai vu des gens nés de nouveau, parlant en langue. J'ai prié pour des gens qui sont devenus des hiboux en ma présence. Les yeux ont révulsé. Le démon m'a regardé comme ça. Et il a commencé à parler. Et après, la personne n'a pas su ce qu'elle disait. Mais elle était née de nouveau. D'accord? Née de nouveau. Une personne qui aime Dieu. D'accord? N'oubliez pas que le fou de Gadara se possédait devant Jésus. Quand il a vu, il s'est mis à genoux. Ce n'est pas tes adorations des mains. Non, il était à genoux et prosterné. Mais il était possédé. Il a dit, Seigneur. Il a même fait une prière. Il a été exaucé. Il a demandé, chasse-nous là, dans les pourceaux. Et il a été exaucé. Alors que certains d'entre nous, souvent prient, même le ciel est fermé. Lui, ça a été ouvert. C'est une parenthèse. Vous voyez? Donc, vous voyez, on peut avoir un corps infiltré par un démon. Mais ça ne veut pas dire que parce que le démon est dans le corps, nous sommes possédés. Il faut faire la différence. Le démon, quand il s'agrippe dans le corps, le but du démon, c'est de prendre le total contrôle de ton âme, de saisir le volant de ta voiture et de diriger ta vie comme il veut. Mais à partir du moment où ton âme n'est pas sous son contrôle, il va essayer d'amener des vents contraires pour que tu amènes le volant dans sa direction. Mais tu peux décider de te tenir sur le volant et de réagir de façon que lui-même, il sorte du corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et si le démon reste dans ton corps, c'est avec ta permission. C'est parce que tu le laisses dans ton corps. Je vais te montrer des signes qui vont te permettre de savoir qu'il a commencé à vouloir même frotter ton vêtement. Et comment est-ce que tu peux parler? Et il prie ses bagages en mettant sa queue entre ses fesses pour disparaître. Que quelqu'un dise amen. Donne-moi un bon amen.
Amen.
Si quelqu'un ne dit pas amen, il faut être sûr que celui-là. Amen. Vous voyez donc, le but c'est la possession totale. Mais je déclare sur ta vie, aussi longtemps que Dieu m'a oint, que cela n'arrivera pas.
Amen.
T'as pas compris de quoi je parle, j'ai dit cela n'arrivera pas.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Amen. Amen. Je vais ajouter une chose. Quand votre âme aime Dieu, quand vous aimez Dieu, les gens ne comprennent pas. Jésus a dit, aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Les gens qui aiment Dieu, le diable a peur d'eux. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous sommes à l'église, pas pour Dieu, mais pour les bénédictions de Dieu. Comme une femme qui épouse un homme, pas pour l'homme, mais pour ce que l'homme possède. Vous n'avez pas encore vu une femme avec un homme, mais en fait, le vrai homme, c'est le chauffeur. Vous n'avez pas encore vu, soit le garde de corps, soit le collègue de bureau. Mais elle porte fièrement le nom Madame Untel et elle n'est pas prête au divorce. Vous avez jamais vu ça? Parce qu'en fait, la connexion d'alliance n'est pas pour l'homme, mais c'est pour ce qu'il a. Il y a des gens comme ça dans le royaume. Ils sont avec Dieu. Jamais ils ne vont vouloir laisser la main de Dieu. Parce qu'ils savent que s'ils laissent Dieu, la nuit, là, les démons vont entrer chez eux. S'ils laissent Dieu, ils vont aller en enfer. S'ils laissent Dieu, comment est-ce qu'ils auraient une réputation? D'ailleurs, ils n'ont rien d'autre. Ils ont échoué à l'école. Ils ne peuvent pas réussir dans la vie. Il n'y a plus que Dieu pour réussir. Ils s'accrochent à Dieu. Ils lisent la Bible tous les jours. C'est le seul moyen de réussite. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils prêchent, les gens acclament. Pas parce qu'ils veulent que les gens soient sauvés. Parce qu'en acclamant, on leur donne un nom. Ils deviennent importants dans la société. Ils s'appuient sur Dieu pour ce qu'ils deviennent et non parce qu'ils aiment Dieu. Vous n'avez pas encore vu? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour ça que Dieu met Abraham à l'épreuve en ces mots. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir si Abraham s'était laissé corrompre par les promesses. S'il était attaché aux promesses et non à celui qui donne la promesse. Les gens veulent la gloire mais sans l'épine de la couronne de gloire. La couronne qui donne la gloire n'est pas une couronne en or, c'est une couronne en épine posée sur la tête dans la douleur. Mais ça, les gens n'aiment pas. On aime la gloire. Alléluia. J'essaie la tête dans la queue. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on aime. Le reste, là, on ne veut pas. Amen. Pasteur, reste-nous dans les promesses. C'est ce qu'on veut. Ne dévie pas. On t'aime bien. Tu es un gars qui nous prêche des promesses. Ouais. C'est ça que les gens aiment. Mais quand on va dans la vérité, quand on va dans la nourriture amère, quand on va justement dans le repas indispensable pour le règne, beaucoup s'arrêtent. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang, il n'est pas mon disciple. On dit, Joe, on était avec toi jusqu'à maintenant. Là, tu exagères. Face à face, tu exagères. On t'a suivi. D'autres ont dû lui dire, écoute, si tu ne veux plus multiplier le pain, on n'est plus avec toi. D'ailleurs, d'autres étaient prêts à donner le nom de son ministère multiplication abondante de pain. Ministère de miracle d'abondance. Tout, chacun était prêt parce que chacun avait sa part. Mais quand il a dit, maintenant regardez à ma personne, tout le monde a dit non. Il a demandé à ses disciples, est-ce que vous voulez aussi partir? Vous voyez, la dimension de ton élévation va dépendre de ton dimension de sacrifice. Plus tu te sacrifies, plus tu montes. Plus tu renonces, plus le ciel se donne à toi. Mais combien d'entre vous, regardez, prenez ce verre d'eau, regardez, voyez, vous mettez de l'eau à l'intérieur, regardez, ok, vous avez de l'eau, ça c'est vous, hein, rempli de vous-même. Et vous dites, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Il dit, je veux bien, mais tu es déjà plein. Vide-toi, enlève tout ce qui est toi, renonce à toi-même, débarrasse tout ce qu'il y a dedans. Je ne veux pas mélanger ma vie avec la tienne, sors-moi les saletés qu'il y a dedans. Débarrasse tout ça, je vais venir me répandre. Mais tu dis non, mets dedans quand même, mets. Il dit non, enlève d'abord ce qu'il y a. Regardez, vous voulez comprendre la profondeur de la parole? Si vous avez chez vous un caïman qui a, ou alors disons, un serpent qui a des œufs dans votre maison, vous tuez le serpent, vous laissez les œufs. Qu'est-ce qui se passe plus tard? Qu'est-ce qui se passe plus tard dans la maison? Les eaux vont éclore et qu'est-ce qui va naître? Des serpents. Très bien. Maintenant, si vous êtes né de nouveau et que vous laissez dans votre âme les pensées du diable, qu'est-ce qui va naître? Du diable. Parce que chaque pensée diabolique est une semence de l'enfer. Le diable a pondu ses œufs dans ta pensée. Et dès que tu vas entretenir ces pensées, tu vas poser les actes diaboliques. Donc le diable sait que dès qu'il a pris le contrôle de ta pensée, c'est terminé. Est-ce que vous savez que chaque acte diabolique qu'on pose commence par une pensée? Il y a des gens à l'heure où je parle, vous avez une pensée qui n'est pas en droit de ligne avec les choses de Dieu. Vous voulez sortir exécuter. Vous comprenez? Mais c'est déjà dans la pensée. Tu es venu à l'église, tu dis bon ma pensée, après ça, je fais ça. D'accord? Mais cette pensée t'amène à l'acte. Le diable n'a plus besoin d'être là. Mais une fois qu'il a semé sa pensée, il contrôle ta vie. Donc si tu ne débarrasses pas les pensées de Satan, tu es en train de laisser les yeux de Satan éclore en toi et produire les œuvres qui ne sont pas bonnes. Il faut donc faire attention. Lève ta main vers le ciel et répète après moi, Éternel des armées, je m'engage à détruire tout ce qui n'est pas du diable dans ma vie. Dans mes pensées, au nom de Jésus, amen. Amen. Et amen. Vous voyez, bien aimé, on doit faire très attention. Donc, il y a cet amour de Dieu qui nous protège. Maintenant, quelle est la porte d'entrée? Quand je suis né de nouveau, qu'est-ce qui peut permettre à Satan d'avoir accès à moi? La porte d'entrée, c'est quoi? C'est le péché. Chaque fois que vous vous livrez au péché, vous ouvrez le portail pour inviter la délégation de Satan dans votre vie. D'accord? Dimanche prochain, je vous dirai ce qu'il faut faire au cas où le portail était ouvert. Il ne faut jamais laisser le portail ouvert longtemps. C'est dangereux l'invasion qu'il peut avoir. Voici des signes qui montrent que des invités indésirables sont en train d'arriver. D'accord? Maintenant, je vous cite d'abord certaines portes, d'accord, qui peuvent permettre au péché, au diable d'entrer. Vous savez, la Bible dit, l'âme qui pêche mourra. Vous savez que c'est l'âme qui pêche? Dis à ton voisin, c'est l'âme qui pêche. Même si c'est le corps. Amen. Qui commet le péché, mais c'est l'âme qui pêche. Le corps exécute le péché, mais l'âme pêche. Le corps n'est qu'en train d'exécuter. Et il y a des péchés qui n'impliquent pas le corps. On est d'accord? Maintenant, regardez. Comment est-ce que certaines personnes entrent en contact avec les démons? Quand Jésus dit, si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas sur la colère. Il sait pourquoi. La colère est une porte ouverte pour aller à l'entrée des démons. L'immoralité. Vous agissez au partout. Vous prenez des démons. C'est clair. Les endroits impurs. Vous arrivez dans un bar. On est là, on fait des affaires. Les gens dansent nuit, ma pouga. Tu es là et dit dans tous les cas, je ne participe pas. Mais pendant qu'elle est en train de secouer son derrière, elle est en train de balancer des esprits impurs dans la salle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et tu es là. À un certain moment, tu dis non, dans tous les cas, je suis enfant de Dieu. Mais tu es là. Et puis à un certain moment, tu vois, ta tête commence à bouger au rythme des airs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et si tu vois ton frère en Christ arriver, tu dis à ton frère en Christ, vraiment ces gens-là, ils sont terribles. Mais en te tendant ta tête, mais qu'est-ce que toi-même tu fais là? Est-ce que vous comprenez? D'accord, il faut faire attention. Le mensonge, la haine. Les gens qui haient leurs frères. Voyez, le drame, c'est qu'à l'église aujourd'hui, on a fait croire aux gens que le péché, ce n'est que le sexe. C'est très faux. C'est faux, faux et faux. Celui qui commet l'homosexualité, celui qui commet l'adultère, celui qui vole, celui qui ne donne pas ce que Dieu a demandé, sont tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y a pas de meilleur pécheur. Il n'y a pas de meilleur pécheur. Donc vous voyez, l'église tend à critiquer les autres. Sans regarder à soi-même. L'idolâtrie, les sacrifices de famille. Vous arrivez à la fin des générations. On vous met des trucs sur le corps. Vous dansez avec vos frères. Tchougo. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de prendre. C'est vrai. Et puis c'est la fête. Pasteur, c'est la fête. Dieu. Amen. Quand il dit c'est la fête, Satan dit oui, on est en fête, mon gars. On est en fête. Parce que par là, les démons entrent. D'accord? La visualisation des films pornographiques, même avec ton mari et ta femme dans la chambre. Oh, pasteur, tu exagères. On est quand même mari. Mais non. Quand ton mari vient vers toi, tu ne sais pas ce qui le motive. Il a regardé la fille qui est à la télé. Il a commencé à se dire, si c'était elle, c'était mieux. Est-ce que vous comprenez? Mais elle n'est pas là. Donc il se tourne vers sa femme pour assouvir l'acte et le péché est conçu dans l'âme. Il désire ce qu'il voit à l'image. Donc ça devient un péché. Donc vous ne pouvez pas voir la nudité sur l'écran, vous en réjouir et penser que c'est terminé. Non, vous allez avec une femme. Cette femme est possédée. Vous avez autorisé tous les démons qu'il y a dans sa vie d'entrer dans la vôtre. Et vice versa. Il y a des gens qui sont là parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas, dis la vérité. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a eu un transfert. Le gars t'a balancé tous ses démons. Et tu dis, tu ne sais pas ce qui arrive. Vous comprenez? Donc, ce sont autant de choses. N'oubliez pas que Saül a été agité par le mauvais esprit, pas parce qu'il avait volé, mais parce qu'il n'avait pas livré toutes les bêtes et tué comme Dieu a demandé. Ananias et Saphira sont morts de n'avoir pas donné la totalité de leur offrande. Faisons attention. Donc le péché n'est plus simplement ce qu'il y avait dans la loi, la mauvaise chose qu'on fait. Mais dans la grâce, c'est aussi la bonne chose que je ne fais pas. Donc c'est ça. Donc ne nous préoccupons pas seulement de dire, je n'ai pas fait ci. Mais est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu es obéissant aux instructions de Dieu? Est-ce que vraiment tu l'es? Et quand les démons arrivent, ils peuvent prendre le contrôle de l'extérieur. Viens mon frère. Le démon n'a pas besoin d'être dans ton corps pour impacter ta vie négativement. Les gens pensent que quand ils ont échoué, oh il faut briser les liens. Oh non, non, tu es libéré. Tu es libéré. Il n'y a pas de lien à briser. Tu es déjà libéré. Si tu n'as pas péché, tu n'as pas besoin de te repentir. On ne se répand pas d'un péché qu'on ne connaît pas. Sinon, on pêche. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, quand, regardez le diable. Le diable peut augmenter tes désirs. Regardez Ève. Est-ce que Ève était possédée? Non, que ce soit une femme qui vienne. Est-ce que Ève était possédée? Ève est dans le jardin. J'ai aimé ce que Mugabe a dit, le président Mugabe. Il dit qu'il y avait deux personnes nues dans le jardin. Mais même le diable n'était pas homosexuel. Donc il est parti plutôt sur la femme. Il a vu deux nues, il a dit, Joe, je vais chez la femme. Donc il a dit à la femme. Maintenant, quand la Bible dit, il parle à la femme. Le fruit est dans le jardin. Mais regardez ce que Genèse 3 dit. La femme vit que l'arbre était agréable à la vue. Bon à manger. Précieux pour vous l'intelligence. Je vous pose une question. Comment est-ce qu'une femme peut voir un fruit qu'elle n'a pas goûté et elle dit c'est bon? Ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été dites dans son oreille. Et elle a fini par conclure que c'était bon. Et elle a voulu manger. Mais quand elle a mangé, elle s'est rendue compte que c'était dangereux. Parce qu'après, ils ont fui Dieu. Donc, c'était le leur. Qu'est-ce que le diable fait? Il peut être à côté de toi et il augmente tes désirs. Vous savez, quand tu désires une femme, si elle, c'est pas empêché. Mais que tu vois toutes les femmes et puis maintenant, papa, tu ne peux plus te retenir. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. De sérieux problèmes. Même si c'est une chienne, ils sont en problème. Il y a un problème. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Mais c'est le diable, en fait, qui vient augmenter les désirs. Il y a des désirs qui sont diaboliques. Même la nourriture. Il y a des gens qui mangent, ils mangent et ils pleurent. Vous n'avez pas encore vu ça? Ils mangent, ils pleurent. Ils mangent, ils pleurent. Ils ne veulent pas manger, mais ils ne peuvent pas s'arrêter de manger. Ils pleurent. Mais ils mangent. Les scientifiques vont trouver des noms incroyables pour expliquer ça. Mais nous savons que c'est la présence d'un démon. Le démon de gloutonnerie qu'il faut chasser au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez? Regardez David. David est à son balcon. Voilà la femme d'Uri. Vous savez que Uri était l'ami de David. Un de ses grands combattants. Il connaissait sa femme. Mais ce jour au balcon, quand elle est en train de se baigner, il voit des formes. Il se dit, mais il a l'impression qu'il n'a jamais vu. Il dit, mais c'est qui cette femme? On dit, c'est la femme d'Uri. Il dit, Joe, cette femme, elle est terrible. Mais qu'est-ce qui fait que ce jour-là, le sentiment de David enfle tant pour Bathsheba? C'est certainement l'influence diabolique. Il a fait venir le même jour, a des rapports avec elle le même jour, et elle tombe enceinte ce jour-là. Pourquoi ce n'était pas un jour où elle n'ovulait pas? Parce que si elle n'ovulait pas, David ayant déjà confessé ses péchés, le problème allait être réglé. Mais comme elle était enceinte, c'était dangereux. C'est ce qui a conduit au meurtre. C'était un piège tendu. Il y a des jours où l'enfer a préparé des pièges. C'est-à-dire, on sait que tu passeras... Le diable connaît tes appétits. Il connaît ce que tu aimes. Il sait que s'il t'a mis ce gars ou cette femme sur ton passage à 16 heures, il sait que là, c'est en danger. Il te connaît. Il dit, regarde là. Il commence, regarde son oreille, regarde ses cheveux, regarde ici, regarde, regarde. Donc, tu vois, donc c'est pour ça que même quand tu sors, à un certain moment, mets les mains sur les yeux, tu dis, Dieu sanctifie mon regard. Que mon regard soit pur. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le regard peut être un sérieux problème. Quand il a vu cette femme, la femme est tombée enceinte ce jour. Je déclare sur ta vie que l'agenda du diable contre toi ne marchera pas au nom puissant de Jésus. Les conspirations sataniques dans le but de te faire tomber et d'exposer la honte sur ta vie n'arriveront pas au nom puissant de Jésus. Car Dieu est avec toi. Car Dieu te garde. Car sa présence te couvre. Car sa main invisible accompagne tes pas. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donc je n'ai pas besoin d'être possédé pour être influencé. Je peux être influencé de l'extérieur. Mais il faut apprendre à réagir. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous taisez. Et vous ne faites rien. Je vous montre quelques étapes. 6. Qui vous amène à la possession. Première étape, la régression. Tu recules dans les choses de Dieu. Il est déjà arrivé à certains d'entre nous ici de ne plus avoir envie de lire la Bible. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des personnes à qui c'est arrivé. Souvent, quand les gens me disent, pasteur, j'arrive pas à avoir sommeil, j'ai dit, prends ta Bible à Jérémie 25. Lis-le pendant 30 minutes et puis tu me rappelles. Il m'appelle le lendemain matin. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'il a pris la Bible, il dort. C'est un somnifère. Si tu n'as pas sommeil, tu commences à vouloir lire la Bible, tu dors. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'il ne faut pas que tu lises la Bible. Lire la Bible est combattu par l'enfer. Il sait, donc il te fait dormir à l'instant. Et si on te réveille pour dire que non, il y a tel film à la télé, pouf, tes yeux, tu commences à voir. C'est spirituel. D'accord? Donc le diable combat ta communion en te faisant régresser. Deux, la répression. Tu n'es plus expressif. Vous savez, il y a vu des gens qui ont été blessés. Ils ne sont plus expressifs, introvertis, boudeurs, silencieux. C'est dangereux. C'est dangereux. Si vous avez des gens pas expressifs, boudeurs et silencieux, ils sont sous l'influence démoniaque. Parce que normalement, on n'a pas besoin d'être dans cet état. Dans cet état, non. Après, il y a la dépression. Un esprit meurtri. La personne manque d'enthousiasme. Souvent, il sèche. Vous voyez, spirituellement, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de joie. La personne a commencé à déprimer. La dépression. Donc, la déprime est la conséquence d'activité diabolique. Une âme qui déprime. Ensuite, il y a l'oppression. La personne ressent un poids dans son âme. Un poids lourd qu'il ne peut porter. Il est comme malade, triste et peureux. Oppressé. C'est là où tu vois quelqu'un se lever la nuit à 2 heures. Il prend sa voiture, il doit chercher une prostituée. Qu'est-ce qui se passe? Il est oppressé. Il y a comme un poids. Sors. Vous entendez? Là, le croyant dit, oh, pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est l'oppression. Donc, alors, à partir de ce moment, la guerre doit avoir lieu à genoux. C'est là où la guerre intervient. Mais si le croyant n'est pas prêt à la guerre, il cède. C'est la guerre. On ne chasse pas le diable en étant calme. Donc il est important de comprendre, bien aimé, que nous avons besoin de nous lever dans la prière. Lève ta main vers le ciel et dis, je me lèverai dans la prière. Et je ne laisserai pas avancer le diable. Je ne paniquerai pas. Car j'ai l'autorité. Mais dis-le comme si tu le penses. Dis, j'ai l'autorité. Je règne. Dieu est avec moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc il est important, déjà à cette étape, que le croyant sache que celui qui est en lui est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne laisse pas le faible prendre le contrôle. D'accord? Ne laisse pas le faible prendre le contrôle. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi, et rien ne peut te nuire. Pourquoi est-ce que chez toi, tu te sens toujours obligé d'aller voir le pasteur? Est-ce que tu ne peux pas te lever à la maison et commencer à parler sur ta vie? Vous ne pouvez pas dire, ça t'aime pas. Non. Vous savez que même le diable sait quelle autorité tu as. Vous le savez? Il sait. Il connaît ton autorité. Il dit à Paul, il dit au fils de Jéva, Paul, on connaît. Jésus, on connaît vous qui êtes-vous? Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, le diable te connaît. Mais pourquoi est-ce qu'il t'attaque? Parce qu'il sait que beaucoup d'entre nous sont ignorants de notre autorité. Mais quand tu commences à évoquer ton autorité, c'est terminé. Tu évoques ton autorité, c'est terminé. Mais quand il te sort de la parole, tu as fait 7 jours sans prier, c'est dangereux. Quand il arrive, tu n'as plus de force. Je vous montrerai dimanche prochain comment se tenir. Comment ton âme doit réagir. Je dis, personne ici ne verra un démon rôder autour de sa maison. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Parce que tu sais qui tu es. Amen. 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 On va troubler le diable. Amen. Par notre autorité. Dis amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. C'est important, bien-aimé. C'est important. Je vais vous montrer comment dans ces phases, on applique l'autorité de Dieu. Après la répression, il y a l'obsession. La personne commence à être dans la confusion. Le mensonge devient la vérité. L'individu ne peut pas penser à autre chose qu'à ça. Vous voyez des gens, ils sont des gros gouverneurs, des gros ministres, des gros chefs d'entreprise. Ils ne pensent qu'à une seule chose. Il y a des gens oppressés, obsédés par le sexe, obsédés par l'argent, obsédés par le sang, obsédé par ci, obsédé par ça, mais je déclare sur ta vie que ton obsession sera Christ.
Amen.
Dis amen.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Que chaque jour tu aies faim et soif de Dieu.
Amen.
Pas d'autre chose. Dis encore bon amen.
Amen.
Et le stade final, c'est la possession. Vous voyez, la possession intervient après plusieurs étapes. C'est très rare de voir quelqu'un né de nouveau être possédé. Mais il peut être oppressé, il peut être obsédé, mais la possession, il perd le contrôle de sa vie. Normalement, si vous êtes possédé, vous ne demandez plus vous-même la prière. Parce que vous aimez ce que vous faites. Quand vous êtes possédé dans un domaine, quand on parle même du domaine, vous vous fâchez. Vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est votre chose. Vous aimez la chose. Pasteur prêche de tout, sauf de ça. Laisse ça de côté. Ça, tu aimes. C'est-à-dire le démon qui est là assis, il gouverne. Il te possède. Dans ce domaine, non. Tu ne veux même pas qu'on en parle. On appelle les gens pour la prière, tu es assis. Parce que ça, c'est la chose que tu aimes. Et le diable sait que quand il t'a pris là, le but n'est pas de voler, mais de détruire. Il sait qu'avec ça, il va te détruire. Il le sait très bien. Il passera par là pour te détruire. Il est passé par le vol pour détruire Judas. Judas est mort, pendu, mais c'était un petit péché. Apparemment, puisque Jésus ne l'avait pas chassé, on dira c'est un petit péché, mais il est mort par là. Le diable sait comment il fait. Donc il faut faire très attention. Très, très, très attention. Ok? C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer. Lève ta main vers le ciel et dis,
je ne panique pas.
Encore, je ne panique pas.
Car je suis conscient
que la vie de Dieu
est dans mon esprit.
Alléluia. Alléluia. Alléluia.
La vie de Dieu
est dans mon esprit.
Et avec cette vie,
je règne
sur les œuvres
des ténèbres.
Je marche
sur les serpents,
les scorpions,
sur la puissance
de l'ennemi.
Et rien
ne peut me vaincre.
Alléluia.
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 Vous voyez,
si par la foi,
vous sentez
une infiltration
dans votre corps,
prenez autorité.
Le diable
s'enfuira.
Si vous parlez,
il va obéir.
Pas à cause de
ce que vous êtes,
mais à cause de ce
qu'il a accompli à la croix
pour votre propre
vie.
Que Dieu te
garde,
qu'il t'arrose
de ses grâces
et que tu te
lèves de la victoire
pour faire sa
volonté sur la terre.
Au nom de
Jésus.
Amen.
Amen.
Et amen.
On va célébrer
ta victoire.
Lève-toi sur
tes pieds.
Lève ta main vers
le ciel.
S'il te plaît.
Là
où tu te trouves,
lève ta main
vers le ciel.
Je veux
t'aider à
parler
sur ta vie
ce matin.
Répète
après moi,
Éternel des armées.
Je suis affranchi.
Par le Fils
Jésus.
Alors,
je suis véritablement
libre.
Je déclare
que
moi, Raoul Wafo,
je ne me
mettrai plus jamais
sous un joug
étranger.
Car
la puissance
de Dieu
est en moi.
Il est écrit,
je
bâtirai
mon église
et les
portes
du séjour des morts
ne vont pas
prévaloir
contre
elle.
Satan,
démon,
autorité,
principauté,
domination,
esprit méchant,
dans les lieux
célestes,
vous ne pouvez
rien,
vous ne pouvez
rien
contre
ma vie,
car
j'appartiens
au royaume
de la lumière.
Il n'y a rien
de commun
entre
Satan
et moi.
C'est pourquoi
je déclare
la liberté
dans mon
âme,
dans mon
corps,
dans mon esprit,
au nom de
Jésus.
Au nom de
Jésus.
Au nom de
Jésus.
Je déclare
que
même ma maison
est libérée
de l'oppression
satanique
et diabolique.
Au nom de
Jésus.
Au nom de
Jésus.
J'invoque le sang.
J'appelle le
sang.
J'appelle le
sang.
J'appelle le
sang.
J'appelle le
sang.
Au nom de
Jésus.
Je couvre ma vie
du sang de
l'agneau.
Et je déclare la liberté
en Jésus-Christ.
Alléluia. 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 Elle cesse. La répression cesse. L'obsession. Au nom de
Jésus.
Au nom de
Jésus.
Jamais
les démons
n'auront le pouvoir
sur ma vie.
Car je suis affranchi. J'appelle le feu.
Feu.
Parvis soit libéré.
J'ai dit
feu.
J'ai dit
feu.
J'ai dit
feu.
Au nom de
Jésus. Au nom de
Jésus.
Que les chaînes
se brisent.
Au nom de
Jésus.
Que les pièges
se renversent.
Au nom de
Jésus.
Au nom de
Jésus.
Que les malédictions
soient
détruites.
Au nom de
Jésus. Au nom de
Jésus.
Car
Jésus
m'a affranchi.
Alléluia.
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 Que Dieu te garde.
Amen.